La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui a quitté aujourd'hui ici les Moulineaux pour aller dans le sud-ouest de la France. Nous sommes à Pézenas. Pézenas est une ville absolument ravissante dans le sud-ouest, pas très loin de Montpellier, pas très loin de Sète, qui a été une ville extrêmement riche au XVIIe, au XVIIIe siècle, qu'il est encore, mais peut-être un tout petit peu moins que naguère, et qui s'enorgueillit de quelques compatriotes tout à fait célèbres. On sait que c'est là que Molière a monté l'illustre théâtre, et quelques décennies, quelques siècles on peut dire après, Bobby Lapointe y a passé son enfance. Qui est Bobby Lapointe? C'est un fantaisiste et un jongleur de mots inimitable qui était, comme on dit, ACI, auteur, compositeur, interprète, ce qui veut dire simplement qu'il écrivait des textes, qu'il composait des musiques et qu'il chantait ses chansons. Et pratiquement dans toutes ses chansons, dans toutes, je sais pas, mais c'est quand même une très très grosse majorité, on a une compulsion au jeu de mots et au calembour qui sont absolument inégalés, me semble-t-il, dans l'histoire de la chanson. Nous sommes donc ici au musée Bobby Lapointe, à Pézenas, en compagnie de...
Sam Olivier
et
Jean-Luc Daudet.
Ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, quand je l'appelle, moi je l'appelle Marcel. Il ne répond pas, mais il approche de sa démarche gauche. Et l'on peut voir dans son regard comme une lueur d'intelligence. Il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Goût record d'athlète, je pose ma main sur son gros bras que marre. Rive-t-il, ça fait-il, il me susurre le curieux refrain. Tiens, voilà du boudin. Et puis en roulant les airs, oh le grand ego, il me dit je vais te faire. Fameux coup du légionnaire, et nous sommes chauds dans la légion étrangère. J'aime son heureux caractère, ses affaires, c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend qui peut.
Sam Olivier et Jean-Luc Daudin, merci bien d'être avec nous. On vient d'entendre quelques mesures de Bobby Lapointe pour se rappeler un petit peu le timbre, la couleur de sa voix et puis voir un petit peu dans quel univers il nous entraîne. Un mot sur ce musée, qu'est-ce qu'on y trouve, depuis quand existe-t-il, Jean-Luc Daudin?
Ce musée est installé à Pézenas, c'est là où nous sommes, à la maison du barbier Gély, depuis 2009. Et le Gély était un ami de Molière. Molière venait voir son ami le barbier le samedi, jour de marché. Il regardait un petit peu les gens, les locaux, pour s'imprégner et écrire des pièces et des personnages de la région ont illustré énormément les pièces secondaires de Molière.
Alors, la maison du barbier sert maintenant de musée Bobby Lapointe ou de maison de Bobby Lapointe? Peut-être que le mot musée est un peu naphtaline.
Alors exactement, d'ailleurs, notre ami Philippe Gentil a dénommé ce lieu la musée Bobby Lapointe, ce qui correspond tout à fait à l'esprit qu'on souhaite faire vivre à ce lieu. C'est-à-dire que c'est pas un musée où on va se consacrer, où il y aura la pipe de Bobby Lapointe, c'est pas ça du tout. Ici, c'est l'esprit de Bobby qui prime en particulier.
Vous dites la musée comme si c'était le non-musée, c'est ça?
C'est un petit peu ça, voilà, c'est ça. Et pour signaler dès le départ qu'il y a une particularité.
Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée, en deux mots?
On va y trouver l'esprit de Bobby, on va trouver sa discographie, on va trouver sa biographie sous la forme de grands panneaux qui ont été réalisés par Sam Olivier et Céline Pibre. On va y trouver une vidéo à regarder, extrait d'un reportage de France 3, une vidéo de lui de 18 minutes. On va retrouver des tableaux, des sculptures, des clins d'œil à Bobby, un petit espace boutique.
Alors, un mot sur ce Bobby Lapointe dont on parle depuis tout à l'heure. Pézenas, c'est sa ville, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y est né, Sam Olivier?
Il y est né le 16 avril 1922. Il y a vécu toute son enfance, son adolescence. Ensuite, dans les années 50, il est monté à Paris, mais ça l'empêchait pas tous les étés de revenir à Pézenas voir ses amis et ses enfants pour aller à la mer qu'il affectionnait beaucoup. Hein. Il y a la maman des poissons. Il y a plusieurs chansons où il le cite. Il a même refusé des tournées à Jacques Canetti, qui était quand même un pont dans les années 60.
Oui, Jacques Canetti, c'était donc le directeur artistique de Philips.
De Philips, de Fontana, des disques Canetti, qui a découvert Brassens, Brel, etc. Et il a dit non, je ne peux pas partir en tournée au mois d'août, faut que j'aille à Pézenas voir mes enfants. Voilà. Donc, il est né et enterré et mort à Pézenas.
Alors, il est né à Pézenas, qu'il a quand même quitté pour, comme on dit, monter à Paris. Il monte à Paris, je sais qu'après avoir été brièvement scaphandrier, il avait installé des antennes sur les toits de la capitale, mais surtout, il commence à chanter. Comment ça se passe et où chante-t-il, Sam Olivier ?
Alors, au début, il ne veut pas chanter. Il a fait publier à compte d'auteur à Montpellier un petit fascicule qui s'appelle « Les 12 chants d'un imbécile heureux », où on retrouve pas mal des chansons qu'il enregistrera plus tard, pour les proposer à des éditeurs, en vue de les faire chanter à des interprètes, féminines de préférence, parce qu'il aimait beaucoup les femmes, et il écrivait pas forcément pour les femmes, mais dans sa tête c'était comme ça. Donc il monte à Paris, effectivement, il essaye de placer ses chansons, mais elles sont tellement atypiques, c'est-à-dire qu'il prend tellement de liberté avec les textes, avec les mots, déjà, que ça choque un peu les gens qui disent « mais personne ne pourra chanter ça, il n'y a que toi qui pourras chanter ça ».
Et au départ, donc, il ne les chante pas ?
Non, il ne chante pas. Il rencontre Étienne Lorrain, qui était compositeur pour Bourville, essentiellement. Et il co-compose avec Étienne Lorrain une chanson pour un film qui s'appelle « Poisson d'avril », dans lequel on retrouve Bourville, qui chante Aragon et Castille, qui n'enregistrera jamais parce que le film n'aura pas de succès. Pourtant, il y a un bon casting, il y a Michel Audiard au dialogue, il y a Louis de Funès, mais le film ne marchera pas. Et puis, il tombe sur une équipe de méridionaux, comme Bobby les appelle, qui ont monté un cabaret qui s'appelle Le Cheval d'Or.
Où il chante Aragon et Castille, entre autres choses, puisque c'est donc l'une de ses chansons anciennes.
Voilà, c'est une de ses premières chansons avec Framboise, Aragon et Castille. Et il a fallu littéralement le pousser sur scène pour que le premier soir, il chante un petit bout d'un couplet, puis le deuxième soir, presque la chanson entière, etc. Et voyant que le public se marrait, il y a pris goût.
Je vous propose tout de suite de l'écouter, cet Aragon et Castille.
Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras, mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui, et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
La danse des mots, toujours avec vous, Sam Olivier et Jean-Luc Dodin. Nous sommes donc dans cet amusé Bobby Lapointe à Pézenas. Est-ce que vous savez si Bobby Lapointe, il a commencé à écrire très tôt ? Il écrit donc au départ des chansons pour les autres, même si ça ne marche pas. Est-ce que c'était une vieille pratique chez lui ? Comment il se met à l'écriture ? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça ?
Je pense qu'on peut dire qu'il a toujours écrit parce que ses professeurs lui disaient vous écrivez très bien, quoi que vos idées soient complètement loufoques. Et là, il était au collège. Donc il avait déjà ce goût de l'écriture et ce goût maladif du calembour, de l'à peu près, du cacemphaton qu'il a mis en pratique après.
Du quoi ?
Le cacemphaton. Alors le cacemphaton, c'est un mauvais jeu de mots, un jeu de mots mal fait exprès, qu'on retrouve dans une de ses dernières chansons, qui fait « De tout ce qu'à ma peau me fit, combien fus-je épaté de foi, combien à vous qui m'épatate, mon bon petit cœur confus droit. » C'est un cacemphaton.
Et un beau, hein. Donc il a le goût du cacemphaton et il commence à écrire très, très jeune, Jean-Luc Daudet.
Donc il a écrit Les 12 chants d'un imbécile heureux, donc le livre dont parlait Sam, c'est sorti en 1951, donc je pense que les premiers écrits doivent dater déjà de la période où il a commencé à faire du théâtre de son adolescence, c'était pendant la guerre, quoi. Il adorait le théâtre également, il faisait la tournée des villages aux alentours de Pézenas en vélo, à cheval, pendant la guerre pour créer un petit peu d'originalité et puis de... Sam.
Dans la famille Lapointe, il y avait aussi une malle à déguisement au 22 Gour Jean Jaurès dans le grenier. Ils improvisaient souvent des pièces de théâtre et Bobby dirigeait ça assez. Donc il aimait bien improviser mais aussi écrire. Sa première femme me racontait, Colette, que quand il jouait Marivaux à Paris dans des petits théâtres, Bobby retenait pas forcément ses textes de Marivaux par cœur, donc il inventait du Marivaux.
Il faisait du Marivaux Lapointe.
Il faisait du Marivaux Lapointe.
Du Bobby Marivaux.
Du Bobby Marivaux. Il a même écrit une pièce qui s'appelle Le barbu du square ou 20 ans d'Aléa, qui est restée encore inédite, qui n'a pas été montée, qui le sera un jour, j'espère, et qui est entre, oui, Marivaux et ce genre de pièces-là. Donc je pense qu'il a toujours eu le goût de l'écriture, toujours eu des idées loufoques. Après, il...
Oui, toujours le goût de l'écriture farfelue. L'écriture, mais en même temps, qui se moque d'elle-même.
Oui, il y a une grande liberté... de ton, de tout, de rythmique. Ces musiciens disent qu'ils faisaient des vers de 12 pieds, de 19 pieds, donc qu'il fallait trouver la rythmique qui aille dessus, ce qui n'était pas évident. Même un pianiste jazz comme Michel Aimer, il galérait un petit peu. François Rabat me racontait que quand ils ont composé ensemble...
François Rabat, c'était un contrebassiste.
Grand contrebassiste qui a travaillé avec Barbara, avec Claude Nougaro, avec des gens comme ça. Et il a écrit la musique d'un film qui est resté inconnu, Gérard Vergès, avec Charles Vanel. Il a écrit « Diba Diba ». Et au début, Bobby n'avait pas de parole. Donc il allait chez François Rabat qui lui chantait « Diba Diba, Ba Diba, Diba Diba ». Et Bobby lui dit « Je vais partir sur Diba Diba ». Et ça a donné la chanson qu'on connaît, « Diba Diba ». C'est souvent, quand on regarde les manuscrits de Bobby, ces jeux de mots qui amènent l'idée suivante, en fait. Il adorait ça. Pas forcément qu'il y ait un sens ou des grandes idées dans ses chansons, mais il y a le jeu de mots « amène l'idée, amène l'univers ». Il se barre.
C'est-à-dire qu'il part du non-sens pour arriver éventuellement à un sens, et encore, pas forcément. Il part du son, il part de cette jonglerie.
Il part de cette jonglerie pour quand même retomber sur ses pieds, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un grand mathématicien qui sommeillait en lui. Il a inventé un système et un langage mathématique qui s'appelle le système bibinaire. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne suis pas matheux. Mais ça se sent dans ses chansons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui ne soit pas à sa place et on ne peut pas le déplacer sans que tout l'édifice se
casse. Ça fait puzzle, quoi.
Ça fait puzzle. Un jour, un de ses pianistes a changé, dans une de ses chansons, il lui répondait, il a changé un mot et Bobby est parti de rage, a quitté la scène. Il était en colère parce qu'on lui avait changé un mot.
Ah oui.
Donc c'était quand même... Ça a l'air loufoque comme ça, mais je pense qu'il prenait pas mal de temps pour écrire ça. Il s'appliquait vraiment à trouver le... Il écrivait tout seul dans un bureau, son fils me racontait, et quand on l'entendait rire, c'est qu'il avait trouvé quelque chose. Et après, il fallait qu'il se précipite pour le lire ou pour le faire entendre.
Pour le tester, quoi.
Pour le tester, voir si ça marchait.
Vous avez gardé, est-ce qu'il y a ici au musée, beaucoup de manuscrits, beaucoup de premiers jets, justement, des textes de Bobby Lapointe?
Oui, il y a quelques manuscrits là dans la vitrine où il y a la discographie, entre autres celle d'une de mes préférées, parce que je pense moi pouvoir annoncer que Bobby Lapointe en 1966 a inventé le rap et le slam mélangés dans une chanson qui s'appelle Andreas et toi, un petit bijou qui a été monté électroniquement d'ailleurs, parce qu'on entend la voix d'un magnifique ténor qui est à la base la voix haute perchée de Jeannine de Wallen. Et Andreas et toi, je vous invite à vous jeter chez votre disquaire le plus proche ou la médiathèque la plus proche. Écoutez ce titre.
Mais sans vous donner la peine d'aller chez votre disquaire le plus proche, vous n'avez qu'à écouter RFI et entendre Andreas et toi.
Andreas et toi, l'amante la plus belle. Veux-tu m'aimer et dire à m'aimer qu'on s'en va.
Qu'est-ce qu'il dit?
Oh, qu'as-tu fait?
Quoi?
De moi tout belle.
Mais qu'est-ce qu'il dit?
Écoute-le, oh Marie Tournelle.
Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu.
C'est toi.
Embrassez-toi. Bon, allez, je m'assois.
Plus belle.
Mate la plus belle, je mate.
Veux-tu m'aimer?
Veux-tu m'aimer? Non, je veux pas.
Dis-toi m'aimer. Qu'on s'en va.
Dis à m'aimer qu'on s'en va, oh, dis-lui toi-même. Ah, c'est pas mes orions. Ouais, c'est pas à moi à lui dire. Ouais.
Ah, m'aimer qu'on s'en va.
Ma querelle. Ta querelle, c'est toi qui cherches une querelle. Moi, j'ai jamais cherché. Au bout de là. Ah, bah, tu es fort, hein. Tu m'as retourné le quoi? Au bout de là, tu m'as retourné le... Attends, j'ai pas compris, répète un peu.
Andreas, c'est toi.
Embrassez-toi, oui, ça j'avais compris. Voilà, maintenant, bon. Monte la poubelle, moi jamais. Non, je veux pas t'aider. Je veux pas t'aider à monter la poubelle.
Qu'on
sent, qu'est-ce qu'on sent? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on sent, quoi? Caca truffé? Oh, bah non, on sent pas. Caca truffé dans ma truelle? Caca truffé dans ta truelle? Oh non, ben c'est ça, ça c'est pas propre. Oh, écoute-la toi-même, hein. Moi, j'y touche pas. D'ailleurs, maintenant, j'ai compris tout le truc, j'ai compris toute la chanson, je la chante avec toi. Allez. Après, c'est toi, la toile, la poubelle, monte la poubelle, belle, 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 belle veux-tu m'aimer, belle veux-tu m'aimer, le veux-tu m'aimer, dis, veux-tu ma m'aimer, dis, mais dis à m'aimer, mais dis à m'aimer, con, dis à m'aimer, consent, ah, dis, mais qu'on s'en va, dis, mais qu'on s'en va, oh non. Caca, tu veux encore? Oh non, non, c'est trop. Non, c'est pas bien là, ça c'est pas propre comme ça. Non, là, y'en a assez. Non, elle est idiote d'ailleurs ta chanson. Allez, maintenant on arrête. Non, maintenant y'en a assez. Marie, tournez le disque, maintenant y'en a assez. Maintenant y'en a assez, absolument assez. Assez!
Est-ce que vous savez alors à propos de l'écriture de Bobby Lapointe, si ça lui venait facilement? Est-ce que c'était un travailleur acharné? Est-ce que c'était un travail pointilleux, minutieux? Est-ce qu'il l'écrivait en marchant? Quel est son rapport à la composition justement de ce texte?
Pour moi c'était une cocotte minute, c'est un mec qui avait 1000 idées à la minute, aussi bien en... des idées de scénario, il en a écrit beaucoup, des idées de chansons, des idées de pièces de théâtre. Donc ça devait être un joli bordel à mettre en ordre. Il avait une jolie expression pour ça, il disait « je braconne ». Voilà, c'était sa manière de dire « oui, j'ai écrit de petites choses comme ça ». Mais je pense qu'il en était assez fier.
Il était entre braconnage et bricolage.
Voilà, il a écrit d'ailleurs « Chanson bricole », hein, c'était... Il avait 46 ans vers la fin de sa vie, pour mettre un peu d'ordre dans son truc où il donne... Les recettes, entre guillemets, de l'à peu près, justement. Il parle pas de Kakem Faton parce qu'il était trop modeste et peut-être que les linguistes ne l'avaient pas encore inventé le terme. Mais,
ouais, les textes sont très raturés ou ça vient d'un jet? Est-ce qu'on a une idée, en voyant justement les manuscrits de Bobby Lapointe, de la façon dont il écrivait?
Il y a beaucoup de... Moi qui en ai vu quelques-uns, il y a beaucoup de ratures, il y a beaucoup de recherches dans la marge. On sent qu'il tourne autour du jeu de mots et qu'il le veut le plus parfait possible, le plus délirant possible, le plus saugrenu possible, le plus comprend qu'il peut possible aussi parfois, parce qu'il y a... Faut pas oublier que dans les chansons de Bobby Lapointe, dans ses textes, il y a vraiment des private jokes, c'est-à-dire qu'il est capable d'écrire une blague sur un de ses professeurs de collège que lui et sa classe connaissent, c'est tout.
Ce que je pense qu'on peut dire, en fait, c'est qu'effectivement, il devait prendre un malin plaisir à écrire. On sent effectivement un côté bouillonnant dans son écriture. Je pense qu'il y a très, très peu de choses qui puissent encore être changées, être améliorées. Moi, j'adore les jeux de mots. Hein. Moi, les Kakem Faton, j'en fais tout le temps. C'est peut-être même une maladie, je ne sais pas. J'adore ça depuis très longtemps. Jean-Luc Dodin est connu pour ça. Mais je ne serai jamais à la hauteur de Bobby Lapointe. Quoi. Moi, je peux faire des jeux de mots. Certains ont du sens. Quand je suis bien inspiré, avec un peu de chance, effectivement, j'arrive à en sortir 5-6 mots qui suivent à une charade. Mais les produire comme faisait Bobby, avec une rythmique, avec un sens, des sens cachés ou pas, c'est un travail. Quand je dis que c'est un génie, on me dit non. Mais je ne sais pas si on peut définir le mot génie, mais en tout cas, c'est un type très, 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 très puissant.
C'est un inventeur, en tout cas. Quand je disais qu'il y avait un espace de liberté, il y a aussi... on dit qu'il a inventé l'embrayage automatique, l'aile delta. C'est un peu comme dans le film, quand la légende est belle, on imprime la légende. Hein, quand la légende devient la vérité, on n'a pas vraiment de preuves. Mais en tout cas, il y a vraiment un côté, plus que bricolo, il y a un côté un inventeur fou.
C'est Géo trouve tout.
Ouais, c'est un peu, je suis dans mon labo, j'ai mis une petite pincée de ci, une petite pincée de ça. Avec toujours une grande jubilation derrière et quand on le voit chanter à la télévision ou dans les cabarets. Tout ça avec un grand sérieux, une mine presque de mec totalement déprimé qui chante les choses les plus délirantes du monde.
Sam Olivier, vous disiez tout à l'heure que Bobby Lapointe, au départ, n'a pas écrit ses chansons pour les chanter lui-même et qu'on l'a poussé sur scène. Il aimait ça. On dit qu'il était quand même, qu'il avait beaucoup le trac, qu'il était très timide. Quel est son rapport à sa propre rythmique et comment il était sur scène corporellement?
Corporellement, c'était alors ça surprenait tout le monde parce que les professionnels comme Guy Béard et tous les gens qui le côtoyaient au Gainsbourg étaient persuadés que c'était un truc de mise en scène, mais pas du tout. C'est Michel Colombier qui m'a raconté ça un jour. quand ils ont enregistré quelques chansons ensemble, en studio, il prenait la rythmique avec ses épaules. Donc il y avait un espèce de mouvement d'épaule comme un derviche tourneur met des épaules. Et c'est comme ça qu'il asseyait sa rythmique. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à taper du pied parce que ça tapait toujours à côté des cymbales ou du métronome de Takati Takiti. Il n'arrivait même pas à reprendre sur le clic d'un métronome. Donc il avait une grande liberté rythmique. Et c'était ce mouvement d'épaule, on peut le voir sur les vidéos, qui le faisait avancer. Tout le monde disait, quand il était lancé des épaules, c'est comme une locomotive à vapeur, on ne pouvait pas l'arrêter. Voilà. Il faut imaginer ce mouvement de locomotive à vapeur. Et il pouvait... Il a été donc scaphandrier, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il pouvait chanter pendant 2 minutes en apnée sans respirer. Ça s'entend sur certains disques. Moi, j'ai eu la chance d'aller en studio et d'avoir que les pistes voix au casque. Je ne l'ai pas entendu respirer. Sur Takati Takiti, par exemple, je crois qu'il y a une prise où il le fait 2 minutes, il ne respire pas. J'ai jamais entendu un chanteur faire ça.
Passionné de natation, c'était un bel homme, il était costaud, il adorait nager, il adorait les extrêmes, il adorait monter sur un rocher et sauter de 10 mètres, les risques il en prenait, des fois il se cassait, j'ai entendu sa famille là, sur une émission qui diffusait cet été sur France Inter, Le Papa des Poissons, qui diffusait le samedi matin, qui est très intéressante, c'est les interviews de la famille Lapointe qui avaient été faites en 2005, donc il raconte un peu les souvenirs de Bobby, comment ça se passait quand il était présent avec les enfants. Et quelqu'un de sa famille, je crois que c'est sa sœur, qui disait qu'il était recousu de partout. Bobby, c'était la tête, c'était le corps, il devait vivre à 200%. Quoi. Moi, j'aime beaucoup une chanson de Bobby, pour parler un petit peu de ses chansons. Il y en a une qui a été faite, qui est un petit peu moins dans l'humour et qui est un petit peu dans la provocation. C'est là qu'on voit qu'il pouvait vraiment se développer dans d'autres domaines. C'est une chanson de 66 également, qui s'appelle L'idole et l'enfant, qui est une critique, qui est vraiment une critique. Alors là, je crois que musicalement, je crois que c'est un jerk. Ça me contredira s'il le faut. Et ce jerk, en fait, c'est je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. Quoi. C'est le comportement des chanteurs yéyés de l'époque où là, il s'est permis d'émettre une critique, quoi. Tout en essayant de coller à la mode musicale de l'époque. Parce que Bobby, quand il a commencé, ses premières chansons, certains les qualifient de musique un peu musique de fanfare. Oui, il y a eu tellement un changement dans la culture musicale.
Mais oui, c'est ça qui est intéressant en même temps, c'est que cette rythmique qui est très forte, c'est la rythmique de soin-soin. Il aimait bien dire soin-soin. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une pompe absolument inévitable. Il y a un certain swing et il y a en même temps une grande raideur. Et il varie entre l'un et l'autre.
Quand il a enregistré Le Papa du Papa, qui est une marche, Le Papa du Papa avec des tubas et des chœurs, Oswald Andrea, qui a fait la musique et les arrangements, a dit comme on avait un peu de budget, on s'est fait plaisir. Et avec Bobby, ça nous faisait marrer de faire une marche, alors que c'était la mode du twist, du jerk et de tous ces trucs à la mode. Et eux, ils voulaient complètement prendre le contre-pied de ça. Ça les faisait marrer. Mmh. Moi, la maison de disques en a vendu 2, mais eux, ils étaient contents de leur petite farce, quoi.
Oui, mais on voit bien que la rythmique est induite, en fait, par les syllabes de temps en temps. Vous dites le papa du papa du papa, ce papa, 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 ça donne l'allure des chansons de Bobby Lapointe, en oui, fait. C'est. On est très proche d'un son.
On est très proche d'un son d'onomatopée, et comme disait de Jean-Luc, du rap et du scat aussi, finalement, si on connaît un petit peu le jazz, on est proche de ça.
Alors, où est-ce qu'il a commencé ? Donc, il se produit à Paris, dans ce qu'on appelait à l'époque les cabarets Rive Gauche.
Oui, c'est ça, au Cheval d'Or, rue de la Montagne, pas loin de la Montagne Sainte-Geneviève. Et puis, comme ça suffit pas, il enchaîne, il en fait 3 ou 4 par soir, comme beaucoup de ses petits camarades de l'époque, parce que ils étaient payés genre l'équivalent de 10 euros par prestation, je pense, si on remet un peu les anciens et les nouveaux francs au goût du jour. Mais il a été assez vite repéré par des gens, par des bonnes fées comme François Truffaut. Alors, on parlait de texte, il faut savoir que François Truffaut, il était un client assidu du Cheval d'Or. Il aimait bien aller voir Bobby, Sukesser, qu'après il a engagé dans Jules et Jim, dont Bobby Lapointe devait faire les chansons. Pour la petite anecdote, il y a peu de gens qui le savent.
Oui. Alors qu'en fait, c'est Cyrus Bassiac, enfin voilà. Alias Rezvani, qui les a faites.
Truffaut les trouvait un peu trop osés pour les mettre dans la bouche de Jeanne Moreau. Donc c'est Cyrus Bassiac.
Mais pourtant, Jeanne Moreau n'avait pas peur des mots.
Non, mais Truffaut un peu plus, je pense. C'était son côté pudique, peut-être.
Mais dans Tirer sur le pianiste, on le voit, Bobby Lapointe, voilà. Qui est un autre film de Truffaut.
Alors, on le voit d'une manière un peu bizarre pour un Français, puisque c'est, à ma connaissance, le seul film où on sous-titre un chanteur. C'est Pierre Braunberger qui avait dit à François Truffaut, de deux choses l'une, ton chanteur ne sait pas articuler, soit tu coupes la scène, soit tu le sous-titres. Et Truffaut a pris ça au pied de la lettre. Ce qui faisait hurler de rire les New-Yorkais, par exemple, quand ils voyaient le film, parce qu'ils se disaient, tiens, un film français sous-titré en français. Et après ça, la maison de disques, sentant l'opportunité, avait fait publier un 45 tours qui s'appelait Bobby Lapointe, le chanteur sous-titré, avec les paroles à l'intérieur. Ce qui est, à ma connaissance, presque la première fois qu'on mettait les paroles des chansons, d'une chanson française, dans un disque en France. Et ça s'est plus fait après, dans les années 70. Mais dans les années 60, c'était très rare de mettre les lyrics, comme on dit.
Et puis, il a eu toute une carrière de comédien, Bobby Lapointe.
Alors, Bobby Lapointe a effectivement a joué dans Tiré sur le pianiste. Il intervient également dans Les choses de la vie. Il intervient aussi dans Max et les ferrailleurs. Dans Chapagois également.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce Chapagois dont je vois l'affiche absolument magnifique dans ce beau musée Bobby Lapointe qui accueille la danse des mots aujourd'hui? Alors là, on voit des cow-boys, tous plus cow-boys les uns que les autres. Ils ont les revolvers, ils ont le chapeau, ils ont le regard clair, ils ont la démarche. Et puis, il y a une belle blonde à gauche. Et il y en a un qui a quand même une petite barbe là, sur son cheval.
Alors effectivement, donc Chapagois, dans Chapagois, on retrouve dans ce western spaghetti qu'on pourrait qualifier de série Z bis, Bobby dans un rôle principal de bandit mexicain. Alors il y a un inconvénient notoire quand même, que là on parlait de Bobby sous-titré, et bon voilà, là on a Bobby qui joue dans un film, et sa voix, c'est pas la voix de Bobby qu'on entend dans le film. Donc évidemment, c'est un peu décevant, quoi, voilà. Mais c'est quand même notable, c'est le film où il a tenu la vedette. Moi je pense que Bobby aurait pu continuer une carrière tout à fait très surprenante, très, très impressionnante, s'il avait pas eu la mauvaise idée de nous quitter en 1972.
Oui, il était très jeune, il avait 50 ans.
À 50 ans tout juste.
Alors ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que Bobby Lapointe a été assez connu de son vivant, mais beaucoup plus après sa mort, puisque ça reste quand même une des grandes gloires posthumes de la chanson française, et que Dieu merci, on peut encore l'écouter. Eh ben, merci infiniment Jean-Luc Daudin, merci Sam Olivier, merci à tout la musée Bobby Lapointe qui se tient donc à Pézenas, d'avoir été les invités d'aujourd'hui dans La Danse des mots, que vous avez présenté par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Hamar.
Pour faire un tube de toilette en chantant sur cette terre bête avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets. Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes. Bon, mais que dois-je pondre? Que ponge? Que ponge? Et mon qui t'a serviette éponge. Serviette éponge, parfait. Allez, vas-y, je vais t'aider. J'apprécie quand de toilette, quand de toilette, me soutient ce lavabo, ce lavabo. Au plus vite, c'est bien lavé, c'est bien lavé. Rite et ça, nous le savons. À nous le savons de toilette. Sur ce piano, les touches tièdes, les touches tièdes. Ton air est bon, mais mon shampoing, mais mon shampoing, il sera peut-être pas sale demain, sale de bain. Il mourra en tout caminé, ou caminé de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé. Cette salade, on verra dans, on verra dans un instant si c'est le bide et, c'est le bide et. Est-ce à répéter ou à terre? Théo ou à terre? J'aimerais mieux que d'autres lavant, au de lavande, au de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé. Ma face de carême a rassé, crème a rassé. Pour sûr aura ce soir l'éthique, rasoir électrique. Ils font rire les cosmétiques, les cosmétiques. Sur ma gueule dans peigne à moustache, peigne à moustache. Cosmétique, crème à raser, rasoir électrique, serviette éponge, chanson de toilette très poétique. Top.
Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.